une vision renouvelée. Voilà notre réflexion depuis quelques semaines. Alors, j'ai mis des paires de lunettes, hein, paires de lunettes teintées, paires de lunettes de vue, paires de lunettes comme les miennes, avec des verres progressifs. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est important de prendre du temps pour évaluer, regarder si j'ai bien la bonne vision ? Parce que notre vision, elle doit être basée sur l'Écriture. Dieu nous a laissé le plan. Avant, quand on allait d'un point à un autre, celui de droite avait, c'était mieux que ce soit celui de droite plutôt que celui de gauche, à moins qu'ils aient une voiture anglaise, avait la carte et disait à la prochaine à droite ou à la prochaine à gauche. Et puis des fois on tournait la carte, on disait non, c'était de l'autre côté. Maintenant on a des GPS, hein, des guides pour le salut, qui nous indiquent et qui nous dit tourner à droite, tourner à gauche. Mais l'Église, on peut se tromper. Quand on parle de l'Église, souvent, on a un langage qui n'est pas juste et souvent on se trompe. Et j'aimerais, et je réfléchis, sur notre vision d'Église, sur notre façon de concevoir l'Église et sur notre façon d'être l'Église. Donc, on prend du temps pour réfléchir et je vous inclus dans notre réflexion basée sur la volonté de Dieu. Souvent on dit « j'aimerais ». J'aimerais que l'Église soit comme ça, j'aimerais que mes frères et sœurs soient comme ça, j'aimerais que la vie chrétienne soit comme ça. Mais au début de la phrase, il y a ce « j'aimerais » qui me gêne. Et c'est pas ce que j'aimerais, c'est comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu... Dieu a... C'est Jésus qui a dit « je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit à Pierre « tu vas bâtir l'Église de Pierre ». Il lui a dit, quand tu seras converti, tu bâtiras mon Église. Une bonne vision, c'est quelque chose aussi qui nous mobilise. Ou à la fin, nous disons Amen. Je suis d'accord. Et quand je dis Amen, quand je dis je suis d'accord, quand je vote, je dis je soutiens la chose. Et donc, il est important qu'on prenne le temps ensemble de réfléchir sur cette vision. Et donc, je l'ai introduit la semaine dernière avec trois verbes. Et cette semaine, j'aimerais encore réfléchir sur cette idée qui glorifie Dieu. L'Église, c'est cette œuvre magnifique que Dieu est en train de créer sur toute la terre. Ce matin, notre sœur nous a parlé de l'Église persécutée, de l'Église invisible, de l'Église souterraine. Mais elle est tout aussi vivante, cette Église. L'Église persécutée, l'Église souterraine, l'Église invisible. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et nous avons à apprendre des choses. Avec Dieu. Dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, ce texte nous aide à comprendre pourquoi il est important d'avoir une bonne visibilité et une bonne vision de là où on va. On a lu, je ne reviens pas sur les versets du chapitre 11, mais il est dit ceci, Hébreux 12, donc pour ceux qui peuvent suivre sur cet écran ou suivre sur votre Bible, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Voilà ce qu'est l'œuvre de Christ. Au lieu de la joie qui lui était proposée, au lieu de dire « j'y suis, j'y reste », au lieu de dire « moi dans mon ciel, là je suis bien, je ne suis pas embarrassé par tous ces problèmes, tous ces péchés, tous ces conflits, toutes ces animosités », non, Jésus a dit « je veux quitter mon ciel » et il est venu sur la terre. et on connaît l'histoire. Il a accepté de porter mon péché, notre péché. Il a accepté de souffrir la faim, le froid, le rejet, la haine. Il a accepté d'affronter la mort pour nous offrir la vie. Et la Bible nous demande de courir dans cette direction-là. Mais si je n'ai pas la visibilité, forcément, je vais me tromper. Je vais me rentrer dans des obstacles qui ne sont pas devant nous. Alors, pour avoir cette vision, ce matin, je vous propose un stéthoscope, un examen médical, où on va regarder quels sont certains facteurs de l'Église. Est-ce que notre Église, ou est-ce que l'Église que nous voulons bâtir, est en bonne santé ? J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, notre Église a 7 ans bientôt. Elle est jeune, n'est-ce pas ? Mais c'est dans sa jeunesse que on vérifie si la croissance est bonne. Et donc, tout enfant, tout parent vérifie systématiquement tous les temps de mois, tous les temps d'années, si la croissance se passe bien, si l'enfant se développe bien. Et en ce début d'année, on va faire ce bilan de santé. Non pas pour être content de nous, en disant « Ah, quand même, heureusement que l'AEI, notre président, nous visite de temps en temps, et il doit se dire « Purée, heureusement qu'il y a Vigneux, parce que pff, ça relève un petit peu le niveau de reste. Hein » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il vient au contraire nous aider. Hein, et nous apporte souvent sa réflexion. Le premier indicateur d'une bonne santé, ou l'indicateur, je dirais presque central, celui qui nous façonne, celui qui nous attire le plus, c'est la centralité de la parole de Dieu. Notre Église se doit d'être basée sur des principes bibliques. Parce que ce n'est pas notre Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est la parole. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide. Et si on regarde, je n'ai pas noté les textes, si vous tournez les pages de l'Écriture dans 2 Timothée au chapitre 3, un texte bien connu, 2 Timothée chapitre 3, voilà ce qu'il est écrit au verset 16 et 17. 2 Timothée, Nouveau Testament, pour ceux qui cherchent. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et 17, il est écrit... Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi ? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La base centrale de notre, de l'écriture, la base centrale de l'Église, la base centrale de ce que Dieu est en train de construire, se construit par pour et avec la parole de Dieu. La centralité. Premier indicateur qui n'arrive jamais, il me semble. Et quand j'ai le témoignage de mes collègues un peu plus avancés en âge et avancés en ministère, jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucun qui m'a dit « ça y est, on est arrivé, on connaît tout, on sait tout, on maîtrise tout ». Quand ils commencent à dire ça à Henri, Henri dit « ils ont besoin d'une visite, je vais aller voir ce qui se passe ». Le deuxième indicateur, c'est la spiritualité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand mot de spiritualité ? Je vous invite dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 5, versets 18 à 21. Éphésiens, c'est un peu plus facile à trouver. Chapitre 5, versets 18 à 21, notez si vous ne trouvez pas. « Soyez, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ce matin, on va réfléchir une fois encore sur les multiples facettes de l'esprit. L'esprit est celui qui va être ce matin notre agent, qui est l'agent principal donné à l'Église pour que l'Église se développe. Le troisième indicateur, c'est une évangélisation fructueuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un gros mot, n'est-ce pas ? Vous dites, voilà, Jean-Claude, il a sorti les gros mots ce matin. Permettre aux gentils, permettre à ceux qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu d'entendre et de voir la parole de Dieu. Henri, dans une méditation cette semaine, nous a dit que nous étions l'incarnation de Dieu sur terre. Sans être offensant, c'est Jésus qui était l'incarnation de Dieu. Mais nous devons incarner, manifester, vivre. On dit, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. N'est-ce pas ? C'est pas ce qu'on dit ? C'est pas ce que le texte dit ? Et pourtant, et regardez dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, car le Fils de l'homme, Luc 19, c'est un peu plus facile encore à trouver que tout à l'heure, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous étions de cela, mes amis. Parce que là, c'est pas un CEUX, hein, là c'est ce, c'est nous. Et il y a dans la ville de Vigneux, il y a dans la ville de Crône, il y a dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges, il y a dans la ville de Draveil, il y a dans la ville d'Athis-Mons, il y a dans les villes qui nous touchent des milliers, des millions de personnes qui ont besoin de voir Jésus. Parce qu'il est mort pour eux aussi. Parce qu'il a donné sa vie aussi. Donc, si nous ne vivons pas Christ, si nous ne sommes pas au centre, alors il y aura un problème. Une adoration, voilà notre frère ce matin. Une adoration qui a de l'impact. Le psaume 100, vous connaissez le psaume 100. Je suis sûr. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez, voilà adorer Dieu, dans notre vie de chaque jour. C'est pas avoir ce regard triste. Oh. On est fatigué à la fin d'une journée, notre frère a partagé ce matin. Vous êtes fatigué. Et mes amis, vous avez le droit. C'est un droit d'être fatigué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons aussi le droit de louer Dieu. De manifester, Seigneur, tu m'as donné un emploi. Seigneur, tu m'as donné à manger. Seigneur, tu m'as donné des vêtements. Seigneur, tu m'as donné tout ce qui était nécessaire. Et je te loue. Je te loue. Demain matin, imaginez les chrétiens de l'église de Vigneux. Demain matin, à la gare, là-bas, en montant dans le train, Seigneur, je te loue que c'est lundi. C'est quoi les conversations du lundi ? Comment ça va ? Ben, c'est lundi, hein. Vous imaginez, chambre, la SNCF va pousser des cris, hein. La RATP va m'appeler, monsieur le pasteur, venez vite, il y a une révolution à la gare de Vigneux. Une adoration. Seigneur, l'adoration, c'est pas juste cette partie du dimanche matin de 10h30 à 11h. L'adoration, c'est chaque jour. Chaque jour. Seigneur, je te loue que je suis dans les bouchons. Voilà Maurice, comme il dort, il passe dans sa voiture. Du temps et du temps et du temps et du temps. Notre président, il habite Lyon. C'est le premier pasteur gitan. Président gitan de l'AEI. Il habite sur l'autoroute A6 ou sur la francilienne. Mais nous pouvons adorer Dieu pour ça. Seigneur, je te loue de ma situation. Je te loue parce que tu sais exactement là où je suis. L'arrosage de la prière. Alors, j'espère que je ne vais pas choquer. L'arrosage de la prière. Éphésiens 6. Vous le connaissez ce texte. Éphésiens 6. Nouveau Testament. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. D'autres textes nous disent de prier pour tous les hommes. Si notre vie chrétienne n'est pas arrosée par la prière, si l'Esprit n'est pas l'agent principal de notre vie, alors, mes amis, nous sommes en train de construire quelque chose qui va s'écrouler. Qui va s'écrouler. Et c'est un indicateur. Le développement de la mission et de la vision. Matthieu chapitre 28, ce verset qu'on connaît presque par cœur. Il dit quoi ? Allez ! Le texte original, il dit, tout en allant dans votre vie chrétienne. Quoi ? C'est quoi la suite ? Alors ? Allez, on ouvre la Bible, Matthieu 18. Faites de toutes les nations, et elles sont là les nations, il y en a 22 ici. Des disciples, baptisez-les, enseignez-les, et quoi ? C'est intéressant parce que c'est un texte qu'on connaît. Et quoi ? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Pas juste les bases. Tu connais Jean 3,16, c'est bon. Mais il n'y en a plus que 3200 et quelques. Autre verset. La formation continue des responsables. Une génération change. Une génération doit passer le bâton à l'autre génération. Nous restons des parents jusqu'à la fin de notre vie. Mais nous avons des enfants. Et nous pouvons avoir des enfants physiques et nous pouvons avoir des enfants spirituels et nous pouvons reconnaître que nous avons besoin de nouveaux responsables, de nouveaux leaders. Et l'objectif dans 2 Timothée 2:2, tout ce que tu as reçu de moi, confie-le, transmets-le à des hommes fidèles. Voilà les indicateurs de notre bonne santé. Des indicateurs qui, si on mettait un chiffre à côté, une note, peut-être on mettrait sûrement pas 10 à aucun d'eux. Mais mes amis, ce sont des indicateurs que nous avons besoin de considérer avec attention, avec précaution. Parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Et nous sommes ensemble l'Église de Dieu. L'Église, ce n'est pas les autorités, l'Église, ce n'est pas l'union. L'Église, c'est tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ah, il y a un petit problème, voilà, c'est ça quand on manipule mal. Dans l'Écriture, il y a ce livre référence, ce livre référence qui nous parle d'Église en bonne santé. L'Église des premiers siècles. L'Église sur laquelle Jésus a posé le socle. Et ce qui est intéressant, quand on lit ce livre des Actes, on peut avoir plusieurs manières de le lire. On peut le lire, voilà ce qui s'est passé à l'époque de l'apôtre Paul. Mais il y a des leçons dedans. La première leçon, on la trouve, ce livre des Actes peut être coupé, structuré d'une certaine façon, qui va nous montrer où est l'agent principal. Le premier verset qui attire notre œil se trouve au chapitre 6 et au verset 7. Il disait, là il est dit, la parole de Dieu se répandait, remarquez, toujours plus. La parole de Dieu se répandait. La centralité ici, c'est la parole de Dieu. Elle se répandait, elle se communiquait. Il n'y avait pas de barrière. Vous croyez qu'il n'y avait pas d'interdiction ? Vous croyez qu'il n'y avait pas d'obstacle ? On vous interdit de parler de ces choses-là. Il y avait déjà les décrets. Certains sont allés même en prison. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, oh Seigneur, t'as vu le bazar quand même. Tu vois, on t'obéit et regarde. On est attaché là. On est en prison, on pleure. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont loué Dieu de ce qu'ils pouvaient être en prison. Monsieur Wilson, je crois que c'est en Yougoslavie, passe plus de temps en prison que dans sa maison. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le change de prison sans arrêt. Parce qu'il réussit, dès qu'on le met en prison, à convertir tout un tas de gens. Et les gardiens, les responsables des prisons, à chaque fois, entendent chanter. Ils disent, mais c'est pas normal. Alors, ils disent, mais qui c'est qui provoque ça ? Oh, monsieur Wilson, vous êtes encore là. On va vous mettre dans une autre prison. Et puis une autre prison, et puis une autre prison. Et finalement, cet homme est en train, tranquillement, d'amener à Jésus-Christ tous les prisonniers de la ville. Il pourrait se lamenter, monsieur Wilson. Un jour, il est venu à Brétigny. Je ne sais pas si mes amis de Brétigny s'en souviennent. Et il nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais c'est quoi votre programme ? Ah ben on chante tous les dimanches. C'est tout, mais mes amis, sortez dehors ! Il y a des gens qui vous attendent. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup, se multipliait à Jérusalem. Chapitre 6, verset 7. La parole se répandait, le nombre des disciples grandissait. Centralité. Et même, il est rajouté, et même, ceux dont on disait c'est impossible, eux ils n'écouteront rien, ils ne changeraient pas. Une grande foule de prêtres obéissait à la voix. Ces religieux qui étaient contre, ces religieux qui étaient égarés. La parole de Dieu se répandait. Les disciples augmentaient, et même ceux dont on disait, eux, jamais. Qui peut croire ? Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Deuxième texte, acte 9, 31. Dans toute la Judée, dans toute la Galilée, dans toute la Samarie, dans toute l'Essonne, dans toute l'île de France, dans tous les départements français. L'Église jouissait alors de la paix. C'était la guerre. C'était un moment difficile. Et l'Église était en paix. C'est intéressant que dans la majorité des pays occidentaux, là où règne la paix, l'Église est en guerre. Vous n'avez jamais pensé à ça ? Dans les pays en guerre, l'Église est en paix. Dans les pays en paix, l'Église est en guerre. Un problème, non ? Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Waouh ! Enfin, j'aime lire ces textes, mes amis. J'aime lire parce que c'est la parole de Dieu. Et on a lu au début que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. L'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance et s'accroissait en nombre. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes diapos, mais... Troisième texte, acte 12. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Parce que les disciples vivaient leur foi. Parce que les disciples répandaient la parole de Dieu. Parce que les disciples laissaient l'Esprit Saint se manifester dans leur vie. Transformer leurs a priori, changer leur vision, les aider à changer de lunettes. Et elles progressaient. Comment la parole de Dieu peut progresser ? Si nous apprenons à la connaître, si nous apprenons à la transmettre, si nous apprenons à la vivre, alors elle va progresser. Ce n'est pas notre œuvre. Chapitre 16 des Actes, verset 5. Et les églises, et là il n'est plus parlé de l'église universelle, mais des églises locales, s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. La parole progressait, la parole transformait, la parole affermissait. La centralité de la parole de Dieu, mes amis, l'œuvre de l'Esprit-Saint permettait à l'Église, c'est-à-dire aux personnes, de grandir en nombre, et à la fois les personnes et les églises se sont multipliées. Chapitre 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus, grâce à la puissance du Seigneur. Mes amis, nous avons, Dieu nous a donné, et je vais y venir tout à l'heure, tout ce qu'il faut, dès le départ, pour que nous puissions vivre Jésus-Christ. Et pour que Dieu accomplisse son plan. Le problème, c'est que, je reviens à tout à l'heure, nous avons notre plan. Seigneur, toi tu proposes, moi je dispose. Non. Regardez à la fin du livre, chapitre 28. Quelque chose qui a attiré mon attention, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est un an ou deux. La fin du verset. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu, enseigné avec une pleine assurance. Et regardez bien la suite là. Et sans aucun empêchement, ce qui concerne le Seigneur Jésus. On connaît la vie de Paul. On sait qu'il a été arrêté, qu'il a été mis aux arrêts, qu'il a failli, on l'a lapidé, on l'a laissé pour mort. Et à la fin du livre des Actes, il enseigne sans aucun empêchement. Ah. Qu'est-ce qui nous empêche ? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre la vie chrétienne ? Qu'est-ce qui nous empêche de manifester ce que Dieu fait dans nos vies ? Qu'est-ce qui nous empêche de communiquer à nos voisins, à nos familles. Soyons francs. La réponse, c'est nous. C'est pas les décrets, c'est pas les lois. C'est nous. Parce qu'on a peur, parce qu'on connaît pas Dieu. Parce que finalement, Dieu dans notre vie, on a un peu de mal à réaliser qui il est, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi l'Église s'est développée de cette façon-là ? Parce que, dans Actes 1, 8, il est dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu, et il nous donne sa puissance. Il se manifeste parce qu'il intercède pour nous, parce qu'il nous convainc, parce qu'il nous reprend, parce qu'il ajoute, parce qu'il transforme. L'agent principal, le développeur de l'Église du 1er siècle, de l'Église du 2e siècle, de l'Église du 21e siècle, son agent principal, c'est l'Esprit Saint, que Dieu a envoyé sur nous, que Jésus a dit, il faut que je m'en aille pour que vous le receviez. Waouh ! La spiritualité, c'est ça ? La spiritualité, c'est de laisser cet Esprit Saint que Dieu nous a donné lors de notre conversion prendre toute la place qu'il doit prendre et manifester les changements. C'est ça notre vue de l'Église ? Le récit de Luc, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes, n'est pas simplement une histoire des premières églises. C'est pas simplement, vous savez, si vous voulez un livre d'histoire, il y a plein d'autres livres d'histoire. Mais c'est pas un livre d'histoire. Il y a des détails que Luc était médecin, il n'était pas historien. Il n'avait pas une licence ou un doctorat en histoire. Luc dit des choses et Luc ne dit pas certaines choses. Luc ne mentionne pas l'expansion de l'Église ailleurs, vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, vers l'Afrique. Luc ne mentionne pas le travail des autres apôtres. Ils n'étaient pas au chômage. Dieu leur a pas dit, bah, tiens, je vais en prendre un, et puis vous, merci d'avoir fait ces 3 années avec moi. Rentrez chez vous maintenant, c'était un CDD. Et non, être chrétien, c'est un CDI. N'est-ce pas ? On n'a pas fini d'accomplir notre tâche. Tant que nous ne sommes pas au ciel, avec Dieu. Le récit n'est pas simplement l'histoire. Il n'y a pas de détails. Mais alors, je sais pas ce que j'ai fait. Que voulait donc nous dire Luc ? Il voulait enseigner le plan de Dieu et la place de l'Église dans ce plan. Le plan le plus extraordinaire que Dieu ait fait, c'est son Église. Et il l'a transmis à ses apôtres. Il voulait enseigner comment Dieu travaille pour accomplir son plan et comment nous devons travailler avec lui. C'est une grâce d'être enfant de Dieu, n'est-ce pas ? Un privilège d'être dans cette équipe et de pouvoir œuvrer à sa place, avec lui. Il voulait donner cette vision-là aux églises. Il voulait avoir une vision juste. Alors regardez, voilà comment Dieu a, quand il a dit « Je bâtirai mon église », quand il a dit « Restez là, attendez que je vous donne l'Esprit Saint qui lui vous transmettra sa puissance ». Et après, comment Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités du monde, Dieu développe son Église et n'est pas encore arrivé à son terme. C'est ça notre vision ? Est-ce que c'est la bonne vision ? C'est en tout cas la vision que la Bible nous laisse, n'est-ce pas ? Luc désirait qu'une bonne partie des actes servent de modèle à ses lecteurs. Pas tellement pour ses détails, mais pour son enseignement général. Dieu a un plan que toute nation, toute personne, que quiconque, il y a encore beaucoup de quiconque, je suis sûr, autour de nous, vos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs, les gens que nous côtoyons au travail, les gens que nous rencontrons dans le train, les gens que nous croisons sur notre route, tous ces quiconques, la Bible dit que Jésus est venu mourir pour eux. Et le développement, là, nous montre le modèle à suivre. Et on a vu tout à l'heure que c'était acceptation, autorité, amour, soumission. C'est ça l'Église ? Ou c'est nos principes à nous ? Voilà comment l'Église devrait être. Luc voulait que nous regardions cette expansion tirant sa puissance du Saint-Esprit et transformant les vies. Vous avez déjà prié « Seigneur, transforme-moi » La majorité de nos prières pour la transformation, c'est plutôt les autres. « Seigneur, change ma femme, par pitié. » C'est toi qui me l'as donné, hein, mais... Pas un cadeau, hein, j'en profite, elle n'est pas là. Donc. Non ? Seigneur, le frère qui vient tous les matins, là, t'as vu ? Oh là là, Seigneur, change-le. Transforme-le. Vous avez déjà prié sincèrement, Seigneur, révèle-toi complètement à moi. Tu l'as fait, mais je vois pas tout encore. Permets à l'Esprit Saint de faire le ménage dans ma vie. De me convaincre de péché, de justice, de jugement. Que tous ces a priori qui sont les miens disparaissent. Transformés. Pourquoi ? Pour la continuation de l'Église. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Mes amis, ça ne change pas votre... Moi, ça me transforme ces derniers temps de dire, mais qu'est-ce que Dieu pourrait encore changer ? Dans ma vie, dans votre vie, dans nos vies, pour que le plan de Dieu se manifeste, pour que son œuvre se développe, pas selon moi, mais selon lui. Luc voulait démontrer ce que devait être l'Église, être, et ce que devait faire l'Église dans son ensemble. Pas qu'on... On imite des détails, parce qu'il y a des détails qu'on ne peut pas imiter. On n'a pas de Romains autour de nous. On n'a pas encore d'Italiens dans cette église. Ça nous manque. L'Europe de l'Est. Est-ce que notre église est à l'image de ce que Jésus attend ? Alors, mes amis, ces 10 indicateurs devant Dieu, devant le Seigneur ce matin. Est-ce que la parole de Dieu est au centre de notre vie ? Parce que mes amis, l'Église, nous, c'est pas l'Église, l'organisation. L'Église, c'est nous. Et la question ce matin, c'est de s'interroger, Seigneur, est-ce que ta parole, c'est le centre de ma vie ? Est-ce qu'elle est au centre ? Si elle n'y est pas, Seigneur, de grâce, aide-moi à la remettre. Est-ce que mon agent, c'est l'Esprit Saint, celui qui manifeste, celui qui intercède, celui qui pousse, celui qui change. Est-ce que permettre à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, c'est une de mes priorités. Pas juste les frères et sœurs. Est-ce que ma vie est une vie d'adoration ? Ou est-ce que c'est juste momentané ? Est-ce que c'est quand je reçois ma prime de fin d'année, mon cadeau de Noël, mon cadeau d'anniversaire, ou ces cadeaux que tu sais me faire de temps en temps ? La prière. Est-ce qu'elle est cet arrosoir avec laquelle, sans laquelle, je ne peux pas pousser ? Si je deviens trop sec, s'il n'y a plus de fruits qui poussent, alors la Bible dit que je suis bon à être jeté au feu. Est-ce que j'ai bien compris ? Que c'est pas d'aller qui compte, mais ce que c'est tout en allant. Alors je peux faire des disciples. Est-ce que la formation, la transmission des choses que Dieu m'a données à d'autres, fait partie aussi de mes désirs ? Est-ce que nous avons cette bonne vision ? La vision que Dieu veut nous transmettre pour 2014. Alors qu'il y a des plans, il y a une carte. Elle est là. Le guide pour le salut, Le GPS pour le ciel, c'est là. Le GPS pour notre pèlerinage sur la terre, c'est là. J'espère que nous avons envie de progresser cette année. De progresser dans notre manière d'être, de progresser dans notre manière de faire. Une vision renouvelée. Pas une vision nouvelle, une vision renouvelée. Seigneur, si mon acuité, si ma vue s'est baissée, si mon cœur s'est refroidi, si mon zèle a disparu, alors Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je suis ton enfant. Tu m'aimes, je t'aime. Aide-moi. On va prier. Seigneur, quelle joie de savoir que c'est toi qui as la carte, que c'est toi qui es le bâtisseur, que c'est toi qui es notre chef, que c'est toi qui va nous transmettre cette bonne vision de ton Église. Seigneur, nous confessons et je confesse que nous voulons mettre en place nos idées. Que parfois nous avons des a priori, que parfois nous avons des retenues, et que parfois nous péchons aussi, parce que nous te désobéissons. Mais Seigneur, ce matin, je voudrais m'humilier devant toi, et te permettre de nous aider que ce que nous essayons de renouveler ne soit pas le désir de quelques-uns, mais que ce soit notre désir à tous. Que nous puissions progresser dans notre vie personnelle. Que nous puissions nous développer dans notre vie de communauté. Non pas pour que nous soyons plus visibles, mais pour que tu sois plus visible. Seigneur, nous prions chaque dimanche que tu nous changes. Nous prions chaque dimanche que tu nous transformes. Nous prions chaque dimanche que tu réadaptes notre vision pour ta gloire. Alors ce matin, une fois encore, je te remets les hommes, les femmes, les frères, les sœurs, les visiteurs, chacun dans ce bâtiment aujourd'hui. Parce que le bâtiment n'est pas saint. Mais nous le sommes. Et c'est toi qui peux changer nos vies, transformer nos vies, nous donner la vie. Si ce matin, un de ces indicateurs a disparu de votre vie, ou honnêtement, devant Dieu, vous dites « La majorité des indicateurs ne sont pas dans ma vie. Je ne suis pas en train de grandir de la bonne façon. » Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Si ce matin, c'est votre prière, tout simplement là où vous dites, oui, dans ces 10 indicateurs, il y en a qui manquent. Il y en a qui sont en très mauvais état. Qui prouvent que je ne suis pas forcément en bonne santé. Alors j'aimerais que tu pries pour moi, pasteur. Si c'est votre cas, juste là où vous êtes, vous levez la main, vous dites « Jean-Claude, avec toi je veux prier, avec toi je veux avoir ce désir d'avancer. » Oui ma sœur, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle? Oui, oui, que Dieu vous bénisse. On a besoin de progresser, tous ensemble. On a besoin d'avancer. Sans ces indicateurs que Dieu nous a fixé, on fera fausse route. Seigneur, merci pour ces amis qui ont levé la main. Tu connais leurs difficultés, leurs désirs. Tu sais là où ils en sont. Et je te les remets, Seigneur, afin que ces indicateurs, ils puissent les développer. Et je veux te prier pour tous ceux qui n'ont pas levé la main. nous devons être honnêtes devant toi et reconnaître que ces indicateurs ont besoin de progresser dans chacune de nos vies. Seigneur, fortifie ton Église ici. C'est toi qui en es le maître, c'est toi qui en es le pasteur, le souverain pasteur. Et nous voulons nous soumettre à toi, pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne. Amen.